Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La conclusion du concile d'Éphèse et son autorité. Comme nous l'avons vu, le concile d'Éphèse, conduit par saint Cyrille, avait prononcé la condamnation de Nestorius. Dans une lettre adressée au lendemain du concile à son clergé et à ses fidèles d'Alexandrie, Cyrille en faisait le récit en ces termes, je cite. « Le Saint Synode s'est tenu à Éphèse le 22 juin, dans la grande église appelée Marie, Théotokos, et après avoir siégé toute la journée, nous avons déposé et expulsé de l'épiscopat le malheureux Nestorius, qui avait été condamné et n'avait même pas osé se présenter devant le Saint Synode. Nous étions réunis plus de 200 évêques. Tout le peuple de la ville resta là du matin au soir, attendant le jugement du Saint Synode. Quand on apprit que le malheureux avait été déposé, tous d'une seule voix se mirent à féliciter le Saint Synode et à rendre gloire à Dieu pour la chute de l'ennemi de la foi. À notre sortie de l'église, on nous reconduisit avec des flambeaux jusqu'à nos demeures, c'était le soir, la joie était générale et toute la ville illumina, des femmes marchaient devant nous avec des encensoirs. » Fin de citation. Alors, comme on le voit, Cyrille raconte les choses à sa manière. Il exagère le nombre d'évêques présents, il se garde bien de dire qu'on n'a pas attendu tout le monde, que le plénipotentiaire de l'empereur a protesté solennellement contre cette manière de faire, et encore moins de dire que si Nestorius n'était pas présent, ce n'était pas parce qu'il n'osait pas venir, mais pour protester contre la manière plutôt expéditive d'agir de Cyrille. Pour un peu, la mauvaise foi de ce compte-rendu nous rendrait Nestorius sympathique. Nestorius et les évêques qui lui sont favorables ne tardent d'ailleurs pas à réagir. Ils adressent à l'empereur une protestation contre ce qu'ils appellent une assemblée barbare. Et le légat de l'empereur en fait autant, déclarant illégitimes et invalides les décisions qui ont été prises. Enfin, le patriarche d'Antioche Jean, qui arrive le 26 juin à Éphèse avec les évêques de Syrie, scandalisé d'apprendre que tout s'est passé sans lui, réunit à son tour un contre-concile qui dépose Cyrille et excommunie les évêques qui ont voté les résolutions proposées par lui. Le père Camelot récapitule cette triste situation en ces termes, je cite. « En cette fin du mois de juin 431, Éphèse présente donc le pénible spectacle de deux conciles rivaux qui s'excommunient réciproquement. Des rixes et des bagarres éclatent, les orientaux racontent qu'ayant voulu aller prier dans l'église de Saint-Jean, ils trouvèrent la porte fermée et qu'ils furent chassés à coups de bâton et de pierre par les serviteurs de l'évêque. Il y eut même des blessés. » Le 29 juin, Théodose prend acte de ce blocage en annulant les décisions du 22 juin. Il ordonne une enquête sur ce qui s'est passé et il enjoint aux évêques de ne pas repartir chez eux avant qu'elle ait donné ses conclusions. C'est l'arrivée des légats du pape début juillet qui va dénouer la situation en faveur de Cyrille. En effet, ils sont porteurs de la lettre du pape Célestin au concile, et lorsqu'ils réunissent les évêques et en donnent lecture, en latin puis en grec, les évêques y reconnaissent la foi professée par Cyrille. Les légats du pape, de leur côté, se font lire la sentence prononcée contre Nestorius et l'approuvent. L'un d'entre eux, le prêtre Philippe, prononce alors d'importantes paroles qui seront citées plus de 14 siècles plus tard, en 1870, par le Concile Vatican I, quand il définira la primauté du pape. Je cite ces paroles importantes. « Personne ne doute que Pierre, chef et tête des apôtres, colonne de la foi, fondement de l'Église catholique, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain, et que le pouvoir de lier ou de délier les péchés lui a été donné. Jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, vit et exerce le pouvoir de juger. » Fin de citation. Alors, comme on le voit, c'est finalement le pape lui-même, par l'intermédiaire de ses légats, qui a résolu le conflit. Saint Cyrille le reconnaît expressément. Il dit « Les légats romains ont été établis pour tenir la place du siège apostolique et des évêques d'Occident, et ils ont confirmé de la part du très saint et pieux évêque Célestin ce qui avait déjà été décidé. » Fin de citation. On voit qu'à cette époque, il y a unanimité pour voir dans le pape, représenté par ses envoyés, l'autorité suprême dans l'Église. Quelques jours plus tard, ce sera au tour de Jean d'Antioche et du contre-concile convoqué par lui d'être désavoué et condamné. Puis, on écrit à l'empereur et au pape pour les mettre au courant de l'issue du concile. Enfin, on proclame solennellement intangible le credo du concile de Nicée. Donc tout est bien qui finit bien. Non, pas encore. Car d'une part, le contre-concile convoqué par Jean d'Antioche refuse de se soumettre, et d'autre part, les enquêteurs nommés par l'empereur arrivent début août, et quand ils voient que tout le monde se dispute, ils déclarent pêle-mêle Cyril, Nestorius et l'évêque d'Éphèse en état d'arrestation. Ce sont ensuite des protestations, des lettres à l'empereur, des intrigues auprès de son entourage, de somptueux cadeaux envoyés par Cyril aux courtisans les plus influents pour se les concilier, jusqu'à ce que Théodose, en septembre, décide de renvoyer tous les évêques chez eux. Cyril, d'ailleurs, sans attendre, avait réussi à s'échapper. Il était à Alexandrie le 30 octobre, reçu en triomphateur par toute la ville. Quant à Nestorius, il avait été remplacé sur le siège de Constantinople et il était parti en exil. Alors essayons maintenant de faire un bilan du travail de ce concile, un des plus troublés de toute l'histoire de l'Église. La première question qui se pose est de savoir, dans cet imbroglio, quel a été le vrai concile d'Éphèse. Les historiens tranchent en rappelant que Cyril, malgré ses méthodes pour le moins contestables, avait pour lui le mandat du pape Célestin, et que les envoyés de Célestin, une fois arrivés et mis au courant, lui ont donné raison. Le vrai concile œcuménique est donc celui que Cyril a présidé, et l'Église y a toujours reconnu l'expression de sa foi. Mais quelle est cette foi? Pour le concile, c'est encore et toujours celle qui a été définie à Nicée. Elle est jugée suffisante pour écarter toutes les erreurs, et il ne faut rien y changer ni rien y ajouter. C'est révélateur de l'autorité que l'Église indivise a reconnue et reconnaît encore à ce premier concile œcuménique. Cependant, le concile d'Éphèse a canonisé, c'est-à-dire déclaré normative pour la foi, la lettre de Cyril à Nestorius, dont on peut résumer le contenu en 6 points. Première affirmation, le Verbe n'a pas changé en se faisant chair. Deuxième affirmation, le Verbe s'est uni, selon l'hypostase, une chair animée d'une âme raisonnable. L'expression « selon l'hypostase » signifie que le principe d'unité est la personne même du Verbe. Refuser cette expression reviendrait à dire qu'il y a deux fils. Troisième affirmation, des deux natures, la divine et l'humaine, résulte donc un seul Christ et un seul Fils. Quatrième affirmation, la différence des natures n'est pas supprimée par leur union. Cinquième affirmation, Marie est bien la mère de Dieu, la Théotokos. Sixième affirmation, ce n'est pas la nature divine qui a souffert, mais c'est bien une personne divine qui a souffert et qui est morte pour nous dans la chair, dans la nature humaine. On peut donc dire que la lettre de Cyril, prise dans sa totalité, exprime authentiquement la foi de l'Église. 20 ans plus tard, le concile de Chalcédoine reprendra l'essentiel de ses formules. À la lettre de Cyril s'ajoutent les fameux anathématismes ou propositions condamnées qui ont été lues au concile mais que Cyril n'a pas demandé d'approuver. Ils ont été seulement insérés dans les actes du concile. On peut les résumer en 6 condamnations. Premièrement, condamnation de ceux qui refusent la formule selon l'hypostase. Deuxièmement, condamnation de ceux qui refusent de parler d'union des deux natures. Troisièmement, condamnation de ceux qui rapportent seulement à un homme ce qui est dit du Christ dans les évangiles. Quatrièmement, condamnation de ceux qui voient dans le Christ 2 personnes et qui rapportent tantôt à Dieu, tantôt à l'homme ce qui est dit de lui. Cinquièmement, condamnation de ceux qui refusent de voir dans l'Eucharistie la chair du Verbe de Dieu. Ce sont les expressions de Cyril. Sixièmement, condamnation de ceux qui refusent de dire que c'est le Verbe de Dieu qui a souffert dans la chair. Les 2 dernières condamnations concernent les appropriations, c'est-à-dire la légitimité de rapporter à la personne du Verbe tout ce qui arrive à l'humanité de Jésus. Ces condamnations, la tradition de l'Église ne les a jamais désavouées. Elles font donc partie de notre patrimoine dogmatique relatif à la foi en Jésus-Christ, mais sans avoir une autorité égale à celle de la lettre à Nestorius, dans la mesure où elle reste tributaire de la théologie alexandrine, qui est celle de Cyrille. En revanche, le titre de Théotokos donné à la Vierge Marie, et donc sa maternité divine, a une autorité maximale pour notre foi. Avant de conclure, soulignons encore une fois deux points capitaux. Le premier, c'est l'importance du siège de Rome dans l'ensemble du processus. Sans le mandat reçu du pape et sans l'authentification des décisions du Concile d'Éphèse par ses légats, la théologie de Saint Cyrille n'aurait pas pu être intégrée dans le patrimoine théologique de l'Église. De la même façon, avec la proclamation du symbole de Nicée comme référence doctrinale définitive, on voit émerger l'autorité des conciles écuméniques comme expression définitive de la foi. Et Saint Cyrille ne manquera pas de faire remarquer que sa théologie du Verbe comme unique sujet de tout ce que fait ou de tout ce que subit le Christ s'accorde avec la structure même du symbole de Nicée, qui attribue au même sujet et à Jésus-Christ son Fils unique l'acte d'être engendré éternellement du Père, puis celui de naître temporellement dans la chair. Le concile d'Éphèse devait être heureusement suivi d'une phase de rapprochement entre les deux écoles théologiques de Cyrille d'Alexandrie et de Jean d'Antioche, et c'est ce dont nous parlerons la prochaine fois.